RCF.
Itinéraire.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui avec nous dans Itinéraire, Sébastien Degorce, isolduinois d'origine, il a quitté le Berry pour y revenir afin d'ouvrir une maison d'édition, les éditions Degorce, où il est également auteur. Attaché à la littérature et au territoire du Berry, nous allons aborder avec lui son parcours de vie, ses choix, ses attachements et les moments marquants. En milieu d'émission, il nous fera découvrir une musique et nous expliquera pourquoi ce choix. Sébastien Degorce, bonjour.
Oui, bonjour.
Pouvez-vous nous faire le déroulé de votre vie en commençant par votre parcours professionnel ?
Alors, s'il faut que je commence mon parcours professionnel dès le début, j'ai travaillé très tôt, j'ai travaillé à partir de 15 ans, comme cuisinier dans un restaurant assez connu qui s'appelle La Cognette. Ensuite, j'ai fait un BEP, un bac pro vente, j'ai travaillé en librairie à Issoudun, la librairie Art et Loisirs. Qui était éditeur aussi, hein, qui a publié un livre sur Issoudun. Ensuite, j'ai fait des petits boulots dans la restauration, dans la vente, etc. Et je suis devenu éditeur après de nombreuses années à écrire. En fait, j'ai commencé comme auteur. J'ai commencé à écrire en 97 et j'ai fait une formation de secrétaire d'édition éditeur à Paris en 2009. Et depuis 2010, je fais des livres.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours personnel ? Donc, quelles sont vos motivations majeures dans votre vie ? Pourquoi se lever le matin, en fait ?
Pourquoi me lever le matin ? Dommage de se coucher le soir déjà sans avoir achevé quelque chose, sans avoir avancé dans quelque chose, soit dans sa tête, que ce soit matériellement. J'ai toujours cultivé un côté imaginaire. C'est pour ça que j'écris. Donc j'ai ma vie sociale, publique, et à côté j'ai mon univers intérieur. C'est pour ça que j'ai toujours écrit. Je me suis intéressé à l'écriture et à l'imaginaire parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans ma jeunesse. Et j'ai commencé à lire justement, non pas avec l'école, je lisais parce qu'on était obligé. J'ai commencé à m'intéresser à un certain genre de littérature à partir du moment où j'ai joué à des jeux de rôle. Et tout doucement, en apprenant à écrire, en apprenant à grandir dans mes idées, c'est-à-dire à me confronter à mes préjugés, j'ai lu de plus en plus, non pas de fiction, comme j'en avais l'habitude, mais des ouvrages de sciences humaines et sociales, surtout sur l'histoire, la spiritualité. Donc il y a voilà c'est le cheminement qui me guide entre guillemets c'est celui-là c'est d'arriver à trouver ma place dans le monde c'est-à-dire quête d'identité qui je suis qui suis-je que fais-je où vais-je voilà peut-être paraître bateau mais c'est ce qui me donne envie d'avancer.
C'est des réflexions que vous menez encore à l'heure actuelle ?
Oui, toujours. Toujours, il faut, pour être bien dans sa tête, vivre bien avec soi-même, les autres, il faut arriver à ne pas se mentir, à se remettre en question en permanence, non pas de manière active, mais en étant ouvert aux choses, en laissant les choses venir à soi, en apprenant, en évitant de se laisser éblouir par ce qui n'est pas soi. Donc je lis à travers... déjà, je lis beaucoup parce que je fais des livres et je suis toujours confronté à des voix différentes. Quand on écrit ses propres bouquins, on a tendance on s'exprime, on apprend beaucoup sur soi. Mais quand on travaille, quand on lit sur les ouvrages des autres, on apprend beaucoup sur les autres, sur le style des autres aussi. Et quand on met la main dans le cambouis, quand on travaille le style, on doit transiger entre ce qu'on attend en tant qu'éditeur et ce que l'on a comme matière d'auteur. Et on doit châtier vraiment sa prose et on doit aussi châtier son ego. C'est-à-dire, quand on écrit pour écrire quelque chose qui tient la route, on doit penser à la personne qu'on doit divertir au premier chef. C'est pas soi-même qu'on doit divertir en écrivant, c'est l'autre. Donc, on doit toujours garder à l'esprit qu'il y a quelqu'un, un destinataire, quoi. Donc là, déjà, on doit châtier sa prose pour arriver à faire quelque chose de bien. Et quand on est éditeur, on doit en plus châtier son envie de s'approprier un texte qui, pourtant, a emporté notre adhésion parce qu'on parie sur ce texte-là. Mais on doit respecter l'auteur, on doit trouver sa place par rapport à l'autre. Il est très difficile de concevoir l'altérité dans le monde actuel. À plusieurs chefs, hein. Le monde actuel nous apprend beaucoup l'individualisme et l'altérité est quelque chose qui est très difficile à concevoir. C'est une abstraction. L'autre, souvent, on ne lui laisse pas vraiment le choix. On est dans une époque où on donne beaucoup d'étiquettes aux gens, à leurs idées, etc. Et on se laisse même parfois à soi-même, on ne se laisse pas beaucoup la place ou le temps de réfléchir. Donc tout ça, quand je dis tout ça, c'est le livre, ça nous force à prendre le temps, de lire, le prendre le temps de comprendre les gens, le temps de prendre le temps de se remettre en question soi-même.
Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
Avez-vous eu des moments marquants ou peut-être des rencontres qui ont eu des conséquences sur votre manière de voir les choses actuellement ?
Oui, alors à quel chef ? Personnellement ou dans mon travail ?
D'abord personnellement.
Ma femme que j'ai rencontrée, qui m'a beaucoup appris, avec laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis du monde qui m'entoure, etc. On se complète très, très bien, j'ai appris sur moi-même et sur la vision que j'ai du monde, tout ça. Je pense que je suis quelqu'un de meilleur qu'avant de la rencontrer. Voilà. Une fois, j'ai rencontré une jeune femme avec qui je travaillais à l'Association française de normalisation. Je faisais les livres. Je travaillais au département livre à Paris. Éminemment ennuyeux comme travail, mais il y avait une bande de filles là-bas avec qui je mangeais le midi. Et il y a une jeune fille un jour qui m'a parlé de prière. Alors, je lui parlais de mes parents et je trouvais que c'était dommage d'aller au cimetière et de se signer devant une tombe alors qu'on va jamais à l'église, qu'il y avait une forme d'hypocrisie là-dedans, etc. Donc j'avais pas mal de préjugés à ce niveau-là. Et en fait, elle m'a tout simplement dit qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans le cœur des gens à ce moment-là. On ne pouvait pas mettre en doute leur sincérité. Et moi, j'avais jamais pensé le problème dans ce sens-là. J'avais pas l'humilité ou l'ouverture nécessaire pour penser à ça. Et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait réfléchir pendant 3-4 jours. Hein, ça m'a obsédé et c'est vrai que ça a pas mal redistribué les cartes de me dire que peu importe l'aspect extérieur de la foi, de la religion ou de la spiritualité. Parce qu'on peut très bien être religieux sans être spirituel. Hein. Il y a des gens qui affectent l'usage ou le rituel sans forcément y mettre leur cœur. Et là, c'est vrai qu'on m'a mis devant une contradiction, c'est que même si la personne répète entre guillemets mécaniquement un geste, c'est pas pour ça qu'elle est pas dans son fort intérieur sincère dans l'élan qu'elle donne à ses pensées, la reconnaissance qu'elle a vis-à-vis des morts, vis-à-vis des vivants. Et moi, c'est quelque chose qui m'a rafraîchi, qui m'a donné confiance en moi.
Alors justement, on en parlait. Est-ce que vous-même, vous avez une réflexion spirituelle ?
Oui. Ah oui, je pense que j'ai une réflexion spirituelle. Après, je sais pas, je sais pas toujours autour de quoi elle s'opère. Je me méfie beaucoup de. En fait, quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai lu une version avec beaucoup d'éclairages, vous savez, historiques, moraux et religieux. Et je me considère comme chrétien. Ça m'arrive d'aller à la messe, mais je suis pas vraiment dans le rituel. Je me considère comme chrétien, mais les cultures comme le shintoïsme, l'animisme, le paganisme en général, ça me fascine aussi. Tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, le côté éthique, bienveillant, moi je m'y suis reconnu à fond, quoi. Après, le temporel, même l'Église aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, je me reconnais pas forcément. Je trouve par exemple les chants, la liturgie, je trouve ça très mièvre. Ça m'empêche justement de communier entre guillemets, voyez. Mais le message, l'éthique, tout tout le message des évangiles, par exemple, oui, 100%, quoi.
Vous êtes sur RCF dans l'émission Itinéraire. Tout de suite, nous allons écouter une musique que notre invité du jour a choisie. Il s'agit du premier mouvement du premier concerto de Paganini.
RCF. Itinéraire.
Nous sommes sur RCF en compagnie de Sébastien Degorce. Nous venons d'écouter la musique qu'il a choisie. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Alors, je jouais de la musique à Bourges quand j'étais jeune. Bon, j'ai 41 ans, je ne suis pas super vieux. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, je jouais de la musique avec deux amis. Un ami violoniste et un ami qui joue du clavier. Et l'ami violoniste m'a fait découvrir Mendelssohn, Paganini. Et j'ai découvert que certaines musiques rock que j'écoutais venaient du classique. Paganini est un violoniste virtuose et puis parfois j'aime bien réécouter ses concertos.
Vous avez donc récemment ouvert une maison d'édition à Bourges. C'était une envie depuis longtemps. Pourquoi ce projet ?
La maison d'édition est née en 2016 en fait. Je l'ai créée en Alsace. Quand je suis arrivé à Bourges au milieu des années 2000, j'en suis parti en 2007. J'ai vécu 5 ans à Paris. 2 ans en Angleterre. Donc, je suis devenu éditeur, sans ce métier, à Paris. J'ai travaillé à l'Association française de normalisation. Je passais 2 ans en Angleterre. Ma femme est anglaise, donc, je passais un peu de temps avec sa famille là-bas. Et après, j'ai passé 5 ans en Alsace où se trouvait ma belle famille. Et, j'ai créé la maison d'édition en Alsace, en 2016. Et j'ai développé une activité là-bas, des livres sur l'Alsace et des livres sur l'histoire, notamment la Révolution française. Et c'est à mon retour en 2019 dans le Berry que j'ai commencé à faire des livres sur le Berry. Donc je suis revenu dans le Berry pour des raisons familiales et j'avais à cœur d'implanter la maison d'édition en Berry. J'ai hésité, j'ai voulu faire en sorte qu'elle soit à Issoudun, mais j'ai pas trouvé forcément comment la domicilier. Et à Bourges, je me suis dit, tiens, c'est le chef-lieu, J'ai appelé la marque éditoriale sur le Berry, bibliothèque Berruyère. Berruyer, ça peut être un synonyme de Berrichon, mais aussi, c'est aussi les habitants de Bourges. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas domicilier à Bourges, c'est pas mal. Comme j'ai habité à Bourges de nombreuses années, ma foi, ça faisait sens.
Vous nous l'avez dit, vous êtes originaire d'Issoudun et vous avez habité à Bourges. Pouvez-vous nous parler de votre attachement au Berry et du coup ce choix de finalement avoir fait votre maison d'édition dans ce territoire ?
Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à travailler dans l'imaginaire. Donc, comme j'ai évolué vers les sciences humaines et sociales, j'ai fait un entre-deux. C'est-à-dire, je publie beaucoup de contes et légendes. Donc, beaucoup de contes et légendes de l'ethnologie du 19e siècle. Avec tout ce qui est contes populaires, décryptage des coutumes, des croyances. Et j'écris moi-même des contes, des fables, etc. Le Berry m'a toujours inspiré. On va dire, la Sologne est plus douce dans la nature, etc. Mais moi, j'ai la chance d'avoir pu vivre mon enfance dans la campagne. Voilà, j'étais à Neuvy-Pailloux et puis ensuite j'ai passé beaucoup de temps dans le pays de Lignières, à Saint-Hilaire-en-Lignières. Et donc ça m'a toujours un peu fasciné, quoi. J'ai toujours été un contemplatif et puis la maison d'édition permet d'exprimer ça et surtout de faire en sorte que les lecteurs puissent renouer avec d'une part leurs racines et d'autre part avec un imaginaire qui peut encore être présent aujourd'hui. C'est-à-dire on n'est pas obligé de se sentir comme dans un musée à ciel ouvert, engoncé dans un folklore dont on doit respecter tel et tel code, etc. Je pense qu'on peut se permettre, même aujourd'hui, de se promener, de se perdre dans la campagne et de faire jouer son imagination. Et que le Berry a un véritable esprit des lieux. Il y a même plusieurs esprits des lieux. Et il suffit simplement de permettre aux gens d'ouvrir les yeux face à ça.
Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
Vous êtes éditeur, mais également auteur. Pouvez-vous nous dire quel type d'auteur vous êtes et quel type de livre écrivez-vous ?
Déjà, j'écris des fictions. J'ai écrit une fresque historique fantastique qui s'appelle « Les Portes Noires ». Donc ça, c'est mon premier roman, ça a commencé avec Dracula. Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles de vampiriques, en gros. C'est devenu un roman. J'ai fait mon premier stage à La Talente, à Nantes, qui est l'auteur de Michael Moorcock et de Terry Pratchett, qui sont vraiment dans les grosses pointures en littérature fantastique. Moi, je me suis vraiment... mon imagination a commencé à fleurir quand je me suis plongé dans les livres de Michael Moorcock, notamment avec le cycle d'Elric. Et donc, ça m'a donné envie d'écrire. Donc, moi, j'ai écrit de la dark fantasy, donc des romans, vous savez, un peu à la Tolkien, mais en beaucoup plus sombre. J'ai écrit aussi une fiction qui s'appelle 13 mois. Alors, donc, les Portes Noires, donc, quand même que je termine, les Portes Noires donc, ont été publiées par un éditeur orléanais en 2014. Et j'ai écrit un autre ouvrage, plus ancré déjà dans la réalité, ça s'appelle 13 mois, donc c'est une fiction, c'est l'histoire d'un apprenti cuisinier qui travaille dans un restaurant étoilé d'Issoudun qui s'appelle La Birette. Et c'est un ouvrage qui m'a permis de parler de mon expérience d'apprenti cuisinier, avec beaucoup d'humour, il y a un côté un peu trash, vous voyez. Et c'est un livre qui s'adresse surtout aux jeunes qui font des apprentissages et qui se trouvent dans un environnement pas très sympa où on les pousse à bout, où on leur demande de travailler 60 heures par semaine alors qu'ils ont que 15 ans, quoi. Ils sortent de l'école, ils comprennent. Voilà, donc il y a quelques abus à ce niveau-là. Et même pas qu'au niveau des enfants, dans l'hôtellerie en général, dans la restauration, il y a beaucoup de violence physique ou morale. Donc, et comme les endroits où j'ai travaillé, hein, je travaillais dans plusieurs restaurants, à chaque fois, c'est toute une galerie de personnages, des mecs, des gens que le métier a rendu un peu fou. Donc, j'ai pu faire un roman assez rigolo, 13 mois, avec une part d'ombre aussi, mais plutôt rigolo, et j'ai des très très bons retours. Autant Les Portes Noires, mon premier roman, c'était vraiment un livre touffu et assez difficile d'accès. Autant celui-là, 13 mois, ça se lit très facilement Et ça reste, bon, ça reste donc de la fiction pour répondre à votre question. Et j'ai sorti un petit recueil de contes sur lequel je travaillais depuis plusieurs années, basé sur, centré sur le Berry, donc des contes animaliers.
Avez-vous un auteur préféré ou un livre préféré peut-être à recommander à nos auditeurs?
Matthew Walker. Alors c'est pas quelque chose, c'est pas ce que j'emmènerais sur une île déserte, mais dernièrement j'ai lu le livre sur le sommeil de Pourquoi dormons-nous, je crois que ça s'appelle comme ça, de Matthew Walker. C'est un état des connaissances sur le sommeil, sur le rêve, et ça permettrait aux gens de mieux vivre, je pense, s'ils avaient conscience de ce qu'ils s'infligent au niveau sommeil dans une société occidentale.
Vous êtes déjà venu nous parler d'ouvrages tels que, comme vous nous le disiez juste avant, Les Nouveaux Contes du Berry ou encore Le Vocabulaire du Berry. Quel est l'ouvrage dont vous êtes le plus fier?
Alors, il faut bien comprendre que le vocabulaire du Berry, c'est un ouvrage que j'ai publié. C'est-à-dire, en tant qu'éditeur, moi, 90% de mon catalogue, c'est des livres que je n'ai pas écrits, c'est des livres que je publie. Donc, c'est d'autres auteurs que je publie. Des auteurs qui, pour une part, qui ont disparu. Donc, c'est des livres que je réédite. Donc, je fais tout un travail de réédition. Je ne fais pas des photocopies des textes. Je retravaille les textes en profondeur, parfois en les modernisant un petit peu pour les rendre accessible à tout le monde, donc au grand public. Si c'est des ouvrages d'érudition, j'essaie de les rendre aussi accessibles au grand public en les annotant, les faisant préfacer, mis en contexte par des auteurs d'aujourd'hui. Et je publie aussi des ouvrages d'auteurs d'aujourd'hui, hein. Donc, moi, il y a dans tout le catalogue, j'ai 24 bouquins, je crois, publiés à l'heure qu'il est. J'en ai deux à moi dans le catalogue. Tout le reste, c'est donc des auteurs à part entière que je publie. Le vocabulaire du Berry, c'est ma meilleure vente. Donc j'en suis très fier à ce chef-là. J'ai travaillé avec Pascal Pauvrhomme, qui était professeur à l'école Saint-Cyr à Issoudun, où j'ai fait mon lycée.
À
C'est quelqu'un que je connais depuis
combien
longtemps.
d'exemplaires l'avez-vous vendu alors?
Alors j'en ai fait 1000 et il en reste 30. Enfin, aux dernières nouvelles, il en reste 30. Et je l'ai fait imprimer en septembre 2019, je crois. Et c'est un très beau succès, parce que vous savez, quand on est éditeur, en région, souvent les tirages, c'est 400, 500, 600 exemplaires, voire 1000. Si vraiment on a pris 2000 exemplaires d'un bouquin, c'est que c'est vraiment soit quelqu'un de connu, soit c'est une thématique très très porteuse. Là, pour le coup, je savais pas du tout où j'allais, parce que c'est le premier bouquin sur le Berry que je publiais dans le cadre des éditions de Gorce, et ça a très très bien marché. Et je m'inquiétais un peu, je me suis dit, bon tiens, je rentre dans le Berry, je quitte l'Alsace. Alors il faut savoir que l'Alsace, c'est une région qui est très dynamique. On a le Conseil de l'Europe qui est juste à côté, on a la Suisse pas très loin, des échanges linguistiques avec l'Allemagne, etc. J'ai fait un livre sur les cathédrales de Fribourg, Bâle et Strasbourg. Donc il y a un vrai échange, il y a un dynamisme, etc. Je me suis dit, comment est-ce que ça va se passer? Je vais retourner dans le Berry, je vais faire des livres sur le Berry. Je cache pas que j'avais un a priori, je me suis dit, tiens, bon, c'est quand même, faut falloir faire attention. Et mon diffuseur-distributeur, la Bouinotte, que je connais depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, m'a dit, non, je pense que tu peux un livre comme ça, tu peux faire un bon tirage. Donc j'ai suivi le conseil et j'ai fait 1000 exemplaires. Donc et ça s'est vendu très très bien et je suis vraiment comblé quoi, en tant qu'éditeur, parce que quand on est un petit éditeur en région, on a tendance à faire des petits paris et à vivre sur une petite économie. Et quand on fait 1000 bouquins et qu'ils se vendent, c'est très très bien. Vous savez que les livres, quand ils arrivent en librairie, les libraires, ils ont la possibilité de les retourner s'ils sont invendus. Et moi, à ce jour, j'ai presque pas de retour, quoi. Même mes livres sur l'Alsace, j'ai quoi? J'ai une dizaine, j'ai quoi? J'ai 10, moins de 10% de retour. Donc, même si j'ai fait des tirages, par exemple, à 1000 exemplaires d'un autre livre et que j'en ai vendu, par exemple, que 600, je sais que ces 600-là, ils sont vendus, ils sont chez les gens, c'est des gens qui l'ont lu, quoi. Donc c'est plutôt bien, mais vraiment très peu de mes livres ont aussi bien marché que celui-là. Et l'accueil qu'on m'a fait dans le Berry, juste en termes de reconnaissance via mes livres, non pas des reconnaissances mondaines, hein, je parle juste en termes de vente, moi je trouve ça super, ça m'a vraiment rassuré et porté vers l'avant, quoi. Je me suis dit, il y a des choses à faire, les gens s'intéressent. Donc, Et le Berry a une histoire qui est très, très, très riche. On peut faire de très, très belles choses. Et si les gens répondent présents, moi, je continuerai à faire des livres et en y mettant du cœur et du soin.
Et vous avez des nouveaux livres sur le Berry en projet?
Alors, je viens tout juste cet après-midi de poster la couverture d'un ouvrage à paraître, Les visions de la nuit dans les campagnes, de Georges Sand. Alors, c'est un article qui a été publié dans le journal L'Illustration à la fin du 19e et qu'elle a publié ensuite avec un roman. C'est un petit texte, hein, donc ça va être un opuscule d'une cinquantaine de pages. Un petit essai sur les visions qu'ont les gens dans la campagne. En se promenant la nuit, vous savez, il nous arrive de prendre un blaireau pour un monstre ou que sais-je. Et j'ai trouvé vraiment la lecture de cet essai piquant.
Merci à vous, Sébastien Degorce, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre vie, votre vécu en tant qu'auteur et la création de votre maison d'édition, les éditions Degorce, implantées en Berry.
C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité et je reste à votre service.